à la présentation du journal Adia Chipoukou.
Lenteur dans la formation du nouveau gouvernement, Lambert Mende parle d'un blocage technique. Selon le porte-parole adjoint de la plateforme AMP, ce blocage est dû à l'absence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une académie de la police judiciaire sera inaugurée ce vendredi à Kinshasa. Cette nouvelle école permettra à la police congolaise d'améliorer sa manière de travailler, notamment par des méthodes scientifiques d'enquête policière. À l'Équateur, l'inspection provinciale de la santé et l'ONG Memisa se serrent les coudes pour arrêter l'épidémie de l'hépatite E qui sévit dans 4 zones de santé. Un médecin épidémiologiste et des médicaments viennent d'être dépêchés sur place. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est depuis 2 jours que l'AMP, l'UDEMO et le PALU cogitent ensemble à Kinshasa sur la formation du prochain gouvernement congolais. En attendant la formation de ce gouvernement, des spéculations vont bon train. Pour couper court à ces spéculations, le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la majorité présidentielle, M. Lambert Mende, contacté par Radio Okapi, a fait savoir qu'il y a blocage technique, un blocage consécutif à l'absence du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Il n'y a rien qui bloque sauf l'aspect technique. Il nous faut avoir une procédure constitutionnelle. C'est à l'Assemblée nationale que le président va formaliser les contacts avec sa majorité, avec la majorité du Parlement. Mais qui va recevoir le président ou la démarche du président, puisque l'Assemblée n'a pas un bureau définitif? Vous savez que les compétences du bureau provisoire s'arrêtent à la rédaction du règlement intérieur et à l'organisation de l'élection du bureau définitif. Point final. Attendons l'installation du bureau définitif et nous aurons l'interlocuteur du chef de l'État dans cette procédure pour la désignation du Premier ministre et l'investiture du gouvernement.
Lambert Mende, porte-parole adjoint de l'AMP, s'exprimait au micro de Jeff Ngoy. C'est quasiment le même point de vue qui est relayé par l'UDEMO, Union des démocrates mobutistes, selon Alain Lubamba, secrétaire général de cette plateforme politique. Il faut respecter la procédure juridique. Ceci permettra d'identifier d'une manière claire la coalition majoritaire au Parlement. La commission électorale indépendante recommande de la patience aux électeurs et candidats aux élections législatives de Mweka et Befale. Le président de cette institution l'a dit hier à Radio Okapi. L'abbé Malumalu réagissait à la situation d'impatience observée auprès de la population du territoire de Mweka dans le Kasaï occidental. Cela après l'arrêt de la Cour suprême de justice du 14 novembre dernier, annulant les résultats du premier scrutin de ce territoire. Suite à la déclaration faite par le deuxième vice-président, président de la CEI, annonçant la tenue de ce scrutin à la première quinzaine du mois de décembre, plusieurs candidats sont rentrés dans la circonscription, mais aucun signal de réorganisation du scrutin n'arrive. On écoute l'abbé Apollinaire Malumalu, joint au téléphone par Basile Bakumbane.
L'organisation des élections à Mweka comme à Befale, pour ne citer que le cas pour lequel la Cour suprême de justice s'est déjà prononcée, est conditionnée par la fin de l'examen du contentieux des élections législatives sur l'ensemble du pays. Cela nous permettrait de les organiser une fois pour toutes sur l'ensemble du pays. Et donc, la Cour suprême de justice n'ayant pas achevé l'examen des contestations qui concerne les élections législatives nationales, la commission électorale indépendante a l'obligation d'attendre. La question d'impatience, des pré-campagnes et autres, n'a rien à voir. D'ailleurs, il n'est pas dit que ce qui était candidat le serait nécessairement. Les règles du jeu seront définies par la décision qui va ouvrir la réorganisation. La commission des voix indépendantes informera aussi bien les candidats que les électeurs eux-mêmes après échange avec la Cour suprême de justice.
C'est dans 3 jours que les assemblées provinciales vont s'ouvrir. Les chefs coutumiers feront partie de ces assemblées après avoir été cooptés. Au Nord Kivu, cette cooptation connaît quelques difficultés. Certains chefs coutumiers remplacés par d'autres à l'époque de la rébellion du RCD demandent d'être repris sur la liste des chefs coutumiers de la province. Mais les autorités sur place préfèrent ne pas se prononcer sur la question en raison de sa complexité. Rosalie Zawadi.
Ils sont une dizaine, chefs de groupement et chefs de chefferie, qui réclament d'être remis dans leurs fonctions. La plupart d'entre eux ont été remplacés lors des différentes guerres qui se sont succédées au Nord Kivu. C'est par exemple la chefferie de Baoundé dans les territoires de Masisi, les groupements Bweza et Binza dans les Rutshuru et d'autres. Les responsables coutumiers non en fonction promettent de saisir la justice si leurs noms sont omis sur la liste des chefs coutumiers devant concourir pour les 4 sièges au Parlement provincial. Explication avec les moi Kalinda Ndandou.
Lorsque on met quelqu'un qui n'est pas chef coutumier sur une liste des chefs coutumiers, c'est un faux usage de faux. Nous sommes en droit de réclamer devant les cours et tribunaux. Nous pensons que les autorités habilitées à faire cette liste ne vont pas tomber dans cette erreur-là. Surtout que nous sommes dans la fièvre du discours du chef de l'État qui a dit que la récréation est terminée.
Les chefs coutumiers en fonction demandent que des enquêtes soient menées dans différentes chefferies pour que la population tranche elle-même la question de la légitimité des uns et des autres. Les responsables chargés de l'élaboration de cette liste n'ont pas voulu s'exprimer sur la question, voulant laisser toute la responsabilité au ministère de l'Intérieur. La cooptation des chefs coutumiers est prévue au Nord Kivu du 21 au 22 décembre prochain. La coordinatrice de la CI déclare qu'ils ne seront invités à la réunion des cooptations que les chefs coutumiers dont les noms figureront sur la liste que lui transmettra le ministère de l'Intérieur. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Inauguration ce vendredi de l'Académie de police judiciaire à Kinshasa. Cette nouvelle école permettra à la police congolaise d'améliorer sa manière de travailler, notamment par des méthodes scientifiques d'enquête policière. L'ambassadeur de la France en RDC, Bernard Prévost, prendra part à cette cérémonie. Il explique ici l'importance de cette école au micro de René Capital.
Cette école de police judiciaire, elle a le mérite d'apporter un volet supplémentaire à la police. Nous avons fait un travail avec d'autres partenaires, encore une fois, pour une police mieux équipée, une police plus efficace, une police d'intervention. Mais quand il y a des enquêtes à faire après des meurtres, après des crimes, il est important d'avoir les éléments d'une enquête très, très valable. Et c'est ce qui va être enseigné dans cette école. Au-delà de cela, il faut que la police soit reconnue par les citoyens, qu'elle soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit bien payée, qu'elle respecte un code de déontologie de façon à ce qu'elle fasse son travail efficacement. C'est un travail de longue haleine, mais que nous entreprenons avec beaucoup de détermination à côté de nos amis congolais.
Signalant que l'ambassadeur de France en RDC, Bernard Prévost, sera l'invité de Radio Okapi tout à l'heure à 8h30, heure de Kinshasa. 19 millions de dollars américains en faveur de la lutte contre les mines antipersonnelles en RDC. Telle est l'enveloppe réclamée par le service de lutte anti-mines des Nations Unies. Cet appel a été lancé au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la MONUC. C'était hier jeudi à l'occasion de la célébration du 9e anniversaire du traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Les conflits armés en RDC sont la principale cause de la présence d'engins non explosés, comme nous le fait savoir le chef du centre de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies, Haruna Ouedraogo. Il est au micro de Ribion Zeza.
Jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas eu les moyens techniques, les moyens financiers pour pouvoir procéder aux études techniques qui nous donnent une image très précise de la situation au niveau du pays. Par contre, les informations que nous avons recueillies jusque-là laissent entrevoir, et cela se répond à la logique des combats, que certaines zones comme le Katanga, des zones comme le Sud Kivu, des zones comme la province orientale, des zones comme l'Équateur sont des zones fortement touchées. Le déminage a déjà commencé en République démocratique du Congo. C'est l'œuvre de l'ONG comme Mine Adversary Group. C'est l'œuvre aussi de la MONUC, parce que la MONUC, à travers, a contracté une compagnie, la compagnie Mekem, pour ses opérations de déploiement. Et cette compagnie a à son actif, à l'heure où je vous parle, plus de 2 millions de mètres carrés de surface déminée.
C'est aujourd'hui que se clôture la conférence des chefs d'État des Grands Lacs à Nairobi, au Kenya. Au cours des travaux d'hier, la République démocratique du Congo était au centre de tous les discours. Dans le volet économique, on signale une légère appréciation du franc congolais face au dollar américain. Un dollar qui s'est changé il y a quelques jours à 530 francs congolais se négocie aujourd'hui à au moins 500 francs congolais. Cependant, sur le marché, les prix des produits de première nécessité et les denrées alimentaires n'ont pas suivi cette baisse. Les marchands contactés à ce sujet pensent qu'ils ne peuvent pas prendre le risque car, selon eux, cette baisse est éphémère. Jacques Moulima leur a tendu son micro. L'un d'eux s'exprime.
Au moment que j'ai acheté ma marchandise, le prix était un peu élevé. Donc je ne peux pas baisser ma marchandise. Si ça continue, on peut baisser le prix. Parce qu'il y a un moment là, ça descend. Mais ça ne continue pas. D'habitude, ça remonte. On ne peut pas prendre le risque, hein, parce qu'on ne sait pas si peut-être le dollar peut monter le lendemain ou le soir. On ne sait pas. C'est pour éviter le risque.
Les Libanais, les Chinois, les Indiens, quand ils arrivent vers le fin du mois, ils préfèrent faire descendre un peu le taux du dollar. Par exemple, le dollar était à 5200. Ils vont faire descendre le dollar à un taux là un peu bas pour qu'ils puissent payer leurs travailleurs à un taux là un peu bas, quoi.
De son côté, le ministre de l'Économie estime qu'il est raisonnable que le prix suive la baisse du dollar. Une mission de contrôle est en cours dans la ville de Kinshasa et des sanctions coercitives sont prévues, a-t-il indiqué. Moïse Nyarugabo a été joint au téléphone par Jacques-Yves Molima.
Que les efforts vont rester constants pour le maintien de la stabilité du dollar. Même si, à supposer même que le dollar puisse encore monter de valeur, cela n'est pas un prétexte pour qu'on ne baisse pas les prix lorsque le dollar baisse. Parce que quand le dollar monte, on réagit immédiatement. On devait être aussi prêt à réajuster lorsque le dollar baisse.
Et puisque ce n'est pas le cas sur le marché, quelles sont les mesures prises par rapport à cela?
Nous avons déjà demandé pour ceux qui sont de Kinshasa à l'hôtel de ville de faire le travail, d'évaluer, d'examiner s'il y a des hausses de prix ou si les opérateurs économiques pratiquent les prix convenus, les prix qu'ils nous ont soumis. Et c'est en fonction de ce rapport que nous allons prendre des mesures. Et dans le même sens, nous avons envoyé une mission d'inspection, de contrôle à Lubumbashi qui est en cours. Et nous-mêmes, à présent, nous nous trouvons à Lubumbashi pour le même travail. C'est à l'issue de ça. Nous allons prendre des mesures parce que notre contrôle est a posteriori, même des mesures contraignantes, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi.
Parlons santé à présent. À l'Équateur, l'inspection provinciale de la santé et l'ONG MEMISA s'organisent pour arrêter l'épidémie de l'hépatite E qui sévit dans les zones de santé de Guémena, Tandala, Boamanda et Bogossé. L'ONG MEMISA vient d'envoyer 7 tonnes de médicaments essentiels pour la prise en charge des malades. Quant à l'inspection provinciale de la santé, elle a dépêché à Guémena son médecin épidémiologiste pour évaluer l'ampleur de la maladie. L'épidémie d'hépatite E a déjà fait 55 morts sur les 622 cas enregistrés. Selon le docteur Makaya Dembe, médecin épidémiologiste de l'Équateur, des dispositions particulières ont été prises pour arrêter la propagation de la maladie, notamment la sensibilisation de la communauté. Il est joué en téléphone par Dominique Wolombi.
Nous allons briefer l'équipe pour la prise en charge. Nous allons donc briefer les relais de la communauté, les relais communautaires sur la sensibilisation. Et les messages d'abord doivent être adaptés à la communauté. C'est comme ça que nous avons une réunion avec les relais communautaires, une formation et puis nous allons rédiger les messages. En fait, c'est une maladie de main sale comme on l'appelle. C'est une maladie qui est manuportée, donc se transmet par les mains sales. Transmis par l'eau des boissons contaminées ainsi que par les aliments contaminés. Donc nous allons prendre des mesures, des messages par rapport à ça. Et il y a des médicaments qui sont déjà ici depuis le lundi avec l'appui de MEMISA et de l'OMS que nous allons distribuer aux zones de santé qui sont atteintes pour la prise en charge des malades.
Santé toujours, l'association des diabétiques de Kindu dans le Maniema a des difficultés. Elle n'est pas prise en charge par les structures médicales officielles et privées, à l'instar des autres associations des malades. À cela s'ajoute le manque des spécialistes et les difficultés à conserver quelques produits. Ceci ressort de la réunion tenue hier par le président de cette association, M. Chom Maniembo. Il est au micro de Sadala Chabani.
La situation des diabétiques au Maniema est dramatique parce que il n'y a pas une structure qui s'occupe de ces groupes de malades. Nous avons commencé cette association en 2002. Alors, les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'abord un corps médical qui les suit. Ensuite, nous n'avons pas ici une pharmacie spécialisée pour avoir des produits et nous n'avons pas non plus aussi des nutritionnistes pour leur donner des conseils sur les aliments à prendre. Parce que vous savez que pour les diabétiques, le grand remède, c'est le respect du régime.
Ceci n'est pas l'avis du médecin inspecteur provincial qui estime de son côté que les diabétiques sont soignés comme tous les autres malades. Cependant, il reconnaît l'absence des spécialistes de cette maladie au Maniema. En page internationale, le sud-coréen Ban Ki-moon a été officiellement investi nouveau secrétaire général des Nations Unies hier jeudi à New York. Il s'est engagé à placer son mandat sous le signe de la confiance retrouvée dans l'organisation et a également fortement critiqué le régime iranien pour son appel à la destruction d'Israël et sa négation de l'Holocauste. Ban Ki-moon succède au Ghanéen Kofi Annan et prendra ses fonctions le 1er janvier pour 5 ans. Il devient le 8e secrétaire général de l'ONU et le premier asiatique à exercer cette charge. Et puis le verdict du scrutin de dimanche 17 décembre 2006 au Gabon risque de tourner au vinaigre. L'opposition qui avait boycotté les dernières législatives en 2001 remet en question la fiabilité des listes électorales et des cartes d'électeurs. C'est ce qu'a rapporté jeudi RFI. Après avoir surpris des personnes avec des cartes d'électeurs relayées par la radio française, le candidat du Rassemblement pour le Gabon en Libreville, Eric, a affirmé « J'ai deux cartes, vous voyez ». J'ai une carte de M. Guémi Manganga, né en 1986, le même Guémi Manganga, né en 1980. L'âge a changé, deux cartes de la même personne. Voilà, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.